Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à votre émission Parole au présent. Mon nom est Francine Robert. Comme vous le constatez, Claude Julien est absent pour quelques fins de semaine au cours du mois d'avril. Il me fait plaisir de partager avec vous mes réflexions sur le récit d'Évangile de ce dimanche. C'est un extrait du chapitre 21 de l'Évangile selon Saint Jean. Si vous vous souvenez du récit de dimanche dernier, nous avions la conclusion de l'Évangile selon Saint Jean. Et il est clair que le chapitre 21 est un ajout, rédigé par un autre auteur, probablement un disciple de l'évangéliste. D'ailleurs, dans la finale du chapitre 21, ce deuxième auteur mentionne ce disciple qui a écrit l'évangile. C'est une manière discrète d'indiquer que celui qui écrit maintenant n'est pas celui qui a écrit le reste du livre. Pourquoi avoir ajouté un chapitre à l'évangile de Jean? Lorsqu'on lit bien ce chapitre 21, on se rend compte que les préoccupations de ce deuxième auteur sont toutes orientées vers la vie de l'Église, vers les questions que l'Église se pose face à sa mission, face au leadership aussi. C'est un récit dont la perspective est nettement ecclésiale. Le récit est divisé en deux parties, l'apparition au bord du lac et la conversation entre Jésus et Pierre. Je vous lis la première partie. Si vous avez sous les yeux le texte du Brion en Église, vous constaterez quelques petites différences dans le récit que je vais vous lire parce que j'ai essayé de rester un peu plus proche du texte original grec. Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord du lac de Tibériade, et voici comment. Il y avait là Simon-Pierre avec Thomas, dont le nom signifie « jumeau », Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples. Simon-Pierre leur dit « Je m'en vais pêcher ». Ils lui répondent « Nous aussi, nous allons avec toi ». Ils partirent et montèrent dans la barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait là sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus les appelle. « Les enfants, avez-vous de quoi manger? » Ils lui répondent « Non ». Il leur dit « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'avaient plus la force de le tirer tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre « C'est le Seigneur. » Simon-Pierre, en entendant que c'était le Seigneur, passa un vêtement car il était nu. Et il se jeta à la mer. Les autres disciples arrivent dans la petite barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à une centaine de mètres. En débarquant sur le rivage, ils voient un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ce poisson que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, « Venez déjeuner. » Aucun des disciples n'osait le questionner, « Toi, qui es-tu? » Ils savaient que c'est le Seigneur. Jésus vient, prend le pain et leur donne, ainsi que le poisson. C'était la troisième fois que Jésus ressuscité d'entre les morts fut manifesté aux disciples. Se faire une première remarque. C'est assez curieux qu'ils soient retournés chez eux à leurs occupations habituelles. Ils sont à la pêche. Alors qu'au chapitre 20, Jésus vient de les envoyer en mission. Et là, c'est comme si, non, il n'y a pas de mission, on est rentré chez soi. Un peu comme les disciples d'Emmaüs qui retournaient chez eux en se disant, bon, ben ça n'a pas fonctionné, l'affaire est terminée. Au plan historique, il est très probable que les premières apparitions ont eu lieu en Galilée. Il est très possible que ce récit s'inspire des expériences d'apparitions vécues en Galilée, mais je vous rappelle ce que je disais la semaine dernière, les récits d'apparitions, pas plus qu'aucun récit des évangiles, ne visent à faire un reportage des événements, ils sont toujours des catéchèses racontées de manière à essayer de faire comprendre quelque chose que leur auteur trouve important. Quand on lit dans cette perspective-là, c'est sûr que même les petits détails peuvent devenir significatifs, puisque l'auteur a pris la peine de les écrire. Il nous parle de 7 disciples, un groupe de 7 qui expriment une certaine plénitude. Parmi ceux qu'il nomme, Simon-Pierre est le premier. Thomas, le deuxième, est aussi le dernier disciple dont il est question dans le livre, c'est-à-dire la fin du chapitre 20. Et Nathanaël est identifié par son origine Cana, qui est l'endroit où Jésus a accompli le premier signe de cet évangile, le repas de noces où l'eau est devenue du vin. C'est un peu comme si le récit venait boucler la boucle en quelque sorte. Donc, ils ont pêché toute la nuit sans rien prendre et sur l'ordre de Jésus, ils vont jeter à nouveau le filet et cette fois, ça va être ce qu'on appelle une pêche miraculeuse, une grosse histoire de pêche, très semblable à celle qu'on peut lire au chapitre 5 de l'Évangile de Luc. Évidemment, dans Luc, on est bien avant Pâques, ça n'est pas un récit d'apparition, mais beaucoup de points sont communs et particulièrement le fait que Pierre va recevoir son appel à suivre Jésus dans le cadre de ce récit de pêche qu'on lit chez Luc au chapitre 5. Et dans notre récit de Jean 21, l'importance de Pierre est capitale. Donc, on voit que ces deux récits ont une même origine. Je vous propose de jouer la carte d'une lecture plutôt symbolique. Et l'Évangile de Jean se prête particulièrement bien à une lecture symbolique. Par exemple, on peut se dire que être dans la nuit, c'est finalement être mal pris. Et je vous rappelle qu'il s'agit d'une catéchèse sur l'expérience de l'Église. Et donc, même si en Église, on est des croyants déjà impliqués dans la mission ecclésiale, ce que la pêche représente, c'est une mission qui est difficile ou qui semble ne pas toujours bien porter ses fruits. C'est intéressant de réfléchir à cet aspect-là de la nuit et du jour qui arrive au moment où Jésus se pointe sur le rivage du lac. Sa présence met fin à cette nuit, si on peut dire, et pourtant les disciples ne semblent pas le reconnaître à première vue. Un peu comme ça arrive au niveau de la mission de l'Église, tout orienté vers le travail, les défis, les problématiques, les déceptions, et où finalement on perd de vue le sens de la présence du Christ, où on n'arrive plus à en percevoir les signes. Alors, à l'appel de Jésus, ils vont donc relancer le filet, et cette fois, la pêche va très bien fonctionner. On parle plus loin de 153 gros poissons. Bon, il serait peu vraisemblable qu'il les ait comptés. Ce chiffre a été commenté par l'un des premiers traducteurs de la Bible, qui est Saint Jérôme, au IVe siècle. Il dit que 153, c'est le nombre de poissons connus dans la Méditerranée à son époque. Donc, là aussi, on a quelque chose de symbolique. Ça représente tout ce qu'il y a de connu, juif, non-juif, en fait tout le monde, et donc la portée universelle de la mission de l'Église. Cette super pêche, elle est perçue comme un signe par le disciple bien-aimé, un signe qui lui dit que l'homme se tenant debout sur le rivage est le Seigneur, c'est-à-dire Jésus ressuscité. Il dit ça à Pierre, et aussitôt Pierre, qui, l'auteur précise littéralement, était tout nu, Pierre s'habille et se jette à l'eau. Nous, on se déshabille quand on se jette à l'eau et on n'a aucune idée de la pertinence de pêcher tout nu la nuit, ni pourquoi les autres seraient pas tout nus et lui, oui. Par contre, on peut facilement faire un lien avec la deuxième partie du récit, celle que je ne vous ai pas lue encore, mais que vous connaissez probablement, où Pierre va se faire demander 3 fois par Jésus s'il l'aime, et cette répétition par 3 fois rappelle le triple reniement. Alors, si on fait un lien entre la nudité de Pierre et le fait qu'il a renié Jésus 3 fois, on pourrait peut-être y lire là une symbolique de son sentiment de culpabilité. C'est pas une hypothèse gratuite, je pense. Je ne sais pas si vous vous rappelez le récit d'Adam et Ève au jardin, qui, après avoir mangé le fruit de l'arbre défendu, se cachent parce qu'ils sont nus. Et cette nudité, elle exprime à la fois leur sentiment de vulnérabilité et surtout leur sentiment de culpabilité. Cette idée que je me sens tout nu devant quelqu'un comme si j'avais fait quelque chose de mal. Et puisque la suite du récit fait allusion clairement au reniement de Pierre, on peut penser qu'il y a quelque chose de cela qui est évoqué par l'auteur dans cette présentation de Pierre qui est tout nu. D'ailleurs, il y a un autre détail aussi qui, je pense, a été planifié par cet auteur astucieux. C'est le feu de braise qui est sur la grève au moment où les disciples arrivent. C'est le même mot qu'on lit dans l'Évangile de Jean au moment du reniement de Pierre. La scène se passe là où il y a un feu de braise. C'est le même mot et c'est aussi les deux seules fois dans tout le Nouveau Testament où ce mot-là est utilisé. Donc, ce n'est pas un mot très courant. Alors, le fait qu'on le retrouve justement dans ces deux récits d'un même Évangile, je pense, n'est pas fortuit. On a affaire à un auteur qui sait écrire. Alors, les disciples arrivent au bord du lac en traînant le filet qui est toujours dans l'eau parce qu'ils n'ont pas été capables de le tirer dans la barque. Et voilà que sur ce feu de braise, Jésus a déjà déposé du pain et du poisson. Donc, il n'a pas besoin véritablement de ce qu'ils apportent. Et pourtant, il le leur demande aussi parce que si on reste dans la symbolique de la mission, c'est autant leur travail que le sien d'assumer cette mission. Et donc, ce fameux filet que personne n'a été capable de tirer dans la barque, voici que Pierre est capable de le tirer à lui tout seul sur la grève. On voit bien que le récit est orienté de manière à mettre en évidence le personnage de Pierre, qui va être encore plus important dans la deuxième partie du récit. Je signale en passant cette phrase intéressante. Aucun des disciples n'osait le questionner « Toi, qui es-tu? » Il savait que c'est le Seigneur. Quand on n'ose pas poser une question, c'est bien parce qu'on a envie de la poser que l'on n'ose pas la question. Donc, les habite, semble-t-il, ce qui rappelle que les récits d'apparition ne fonctionnent jamais sous le mode de l'évidence. Hein? Ils sont à côté de lui, là, donc ils pourraient le reconnaître si c'était exactement le même. Donc, on voit bien le souci encore là de cet auteur d'être fidèle, tout comme les autres récits d'apparition l'ont été, d'être fidèle à l'aspect de difficulté qui a fait partie des expériences vécues. En dernière remarque, je tiens à souligner l'attitude de Jésus qui prend soin de son groupe, qui leur a préparé un repas, qui les invite à manger. Évidemment, on fait le lien avec l'Eucharistie, hein, les gestes familiers de prendre le pain et de le donner au groupe. Mais j'insiste sur l'aspect « prendre soin » parce qu'il va en être question encore là dans la deuxième partie du récit. Avant de vous la lire, cette deuxième partie, j'aimerais faire une mise au point à propos du verbe « aimer », un verbe qui revient 7 fois dans les 3 questions de Jésus, dans les 3 réponses de Pierre. Bon, en français, le verbe « aimer » peut avoir plusieurs significations. « Je suis amoureuse » ou « j'aime l'humanité », c'est pas la même chose. « J'aime mes amis », c'est encore différent. En grec, il y a des verbes différents pour exprimer ces nuances-là. Et le récit grec utilise 2 de ces verbes-là, qu'on traduit toujours par le verbe « aimer ». On a le verbe « agapao », souvent traduit par « charité »,« amour, charité ». C'est l'amour-engagement, pourrait-on dire. C'est ce qu'on trouve, par exemple, dans ce qu'on appelle l'hymne à l'amour dans la première lettre de Paul aux Corinthiens. C'est l'amour par choix, l'amour par décision, par engagement. C'est proche du sens hébreu du verbe « aimer » aussi. Alors que l'autre verbe « philéo », ça serait l'amour d'amitié. « J'aime mes amis ». C'est plus lié à quelque chose de personnel, avec l'attachement à une personne en particulier ou à plusieurs. Ça va avec l'affection, avec une certaine émotion aussi. Et bien sûr, il y a le « eros » qui est l'amour amoureux. Alors, dans le Nouveau Testament, le plus souvent « agapé » ou le verbe « agapao », ça désigne l'amour de Dieu pour les humains. Et c'est, par exemple, le verbe que Jésus va employer dans Jean avec cette phrase que nous aurons dans deux semaines, je pense, « Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. » C'est toujours agapao. Pourquoi j'en parle? Parce que dans les questions de Jésus, c'est ce verbe, et dans les réponses de Pierre, c'est l'autre verbe « philéo » que j'ai donc traduit différemment pour faire ressortir les nuances. Quand ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci? » Il lui répond, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'affection pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Il lui dit encore pour une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? » Il lui répond, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'affection pour toi. » Jésus lui dit, « Fais paître mes brebis. » Il lui dit la troisième fois, « Simon, fils de Jean, as-tu de l'affection pour moi? » Pierre fut attristé parce que la troisième fois, il avait dit, « As-tu de l'affection pour moi? » Et il répondit, « Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'affection pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » En vérité, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même et tu allais là où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les mains et un autre te mettra ta ceinture et te mènera là où tu ne veux pas. » Jésus disait cela pour signifier par quelle mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » Alors, bien sûr, cette reprise trois fois de questions et de réponses très semblables est clairement une allusion aux trois fois où Pierre a renié Jésus au moment du procès chez le grand prêtre. Le fait que c'est dit trois fois, ça ajoute aussi une certaine solennité à la démarche. Hein, c'est presque comme un rituel, on pourrait dire. C'est clair que le récit veut bien confirmer le rôle de Pierre pour l'ensemble des communautés chrétiennes, sa responsabilité particulière, et de confirmer ce rôle particulièrement dans la communauté de Saint-Jean, cette communauté qui a une petite tendance à faire bande à part si on se fie aux trois épîtres attribuées à Jean. Il reste que pour l'ensemble des chrétiens, ça devait être important d'exprimer clairement le pardon que le ressuscité accorde à Pierre, au-delà du reniement, parce que tout le monde connaissait cette histoire de reniement, et c'est important de montrer que le Christ a quand même bien maintenu sa confiance en lui. En passant, c'est intéressant de voir que pour exprimer le pardon, Jésus n'a pas demandé à Pierre d'avouer ou de confesser sa faute, sa faiblesse, mais plutôt il choisit de l'enraciner dans ce qui peut faire sa force, c'est-à-dire l'amour dont il est capable. Je trouve que c'est une manière très positive de gérer le pardon. Le récit montre qu'il y a un attachement très réel de Pierre vis-à-vis Jésus, mais on pourrait dire c'est comme un attachement envers sa personne, hein, comme avec un ami très proche, quelqu'un qu'on aime beaucoup. Ami, c'est philos. Pierre répond, « Je te philéo, je t'aime d'amitié, j'ai de l'affection pour toi. » Sauf que la question de Jésus, ça parle pas d'aimer philéo, ça parle d'aimer agapao, c'est-à-dire de ce que je présentais tout à l'heure comme un amour qui est de décision et d'engagement plutôt que du ressenti face à une personne ou de l'attachement. Sa question à Jésus, c'est pas « Est-ce que tu ressens pour moi plus d'amitié que les autres disciples? » Sa question, c'est « Est-ce que tu peux aimer cette communauté et moi-même comme moi j'ai aimé les gens? » C'est-à-dire comme je me suis mis totalement au service des gens pour manifester l'amour de Dieu dans ma manière de vous aimer. Alors, c'est clair que Pierre, ben, il y a encore du chemin à faire. Hein? Il en est conscient d'ailleurs dans ses réponses. Il doit se rappeler que c'est lui qui disait « Moi, je donnerai ma vie pour toi ». Et l'expérience du reniement lui a appris ses limites. Ce qu'il admet d'ailleurs. Tu sais tout, hein? Tu le sais, la façon dont je t'aime, au fond. Tu connais mes limites. La troisième question de Jésus, en fait, l'attriste, précise le récit, parce que Jésus baisse son critère et emploie lui-même le verbe phileo. Il s'est ajusté au niveau de Pierre. Ce qui n'empêche pas Jésus, vous remarquerez, de lui faire toute confiance pour la responsabilité qu'il lui confie envers l'Église. C'est peut-être pas une si mauvaise idée de confier un leadership à quelqu'un qui est bien conscient de ses limites et qui donc va pouvoir vivre aussi avec les limites des autres. Pour préciser cette mission de responsabilité que Jésus veut confier à Pierre, il emploie le vocabulaire du travail de berger. Alors, c'est intéressant de se rappeler que c'est justement dans l'Évangile de Jean que Jésus parle de lui en développant l'image du bon berger, ou le bon pasteur, c'est le même mot en grec. C'est dans Jean au chapitre 10. Dans le texte grec ici, Jésus n'emploie pas le mot berger pour désigner Pierre, le mot qu'il a employé pour lui-même au chapitre 10. La traduction qu'on a souvent, et qui est celle du lectionnaire, soit le berger de mes brebis, soit le pasteur, cette traduction-là porte notre attention sur l'être, ce qu'il doit être ou ce qu'il sera. Ça donne un peu l'impression d'un statut particulier de son être même. Mais dans le texte, on n'a pas le verbe être, on a partout des verbes d'action. Cette mission parle de ce qu'il doit faire. Il y a deux verbes, dont un est répété, et dans les deux cas, c'est les verbes qui expriment le travail de tout berger, c'est-à-dire faire paître un troupeau, le nourrir, en prendre soin. Par exemple, ce que Jésus dit de lui-même dans Jean au chapitre 10, « Je suis le bon berger, je suis venu afin que les brebis aient la vie en abondance. » Dans la Bible, le berger par excellence, c'est Dieu lui-même. C'est une métaphore très courante. Et dans Jean, bien sûr, c'est Jésus qui est présenté comme assumant ce rôle. Je trouve que ça éclaire autrement aussi la première partie du récit. Hein. Là où Jésus, d'abord, s'est informé s'ils avaient de la nourriture. La question n'est pas « est-ce que vous avez du poisson, mais est-ce que vous avez de quoi manger? » Et ensuite, le fait qu'il ait préparé le repas et qu'il le leur ait offert. C'est comme la mise en scène de Jésus prenant soin du groupe, c'est-à-dire agissant en berger du groupe. Il veille à ce qu'ils aient ce dont ils ont besoin. C'est sûr que au plan symbolique, cette nourriture, c'est aussi l'image de nourrir la foi. Je pense par exemple au début du récit de la multiplication des pains dans l'Évangile de Marc, au chapitre 6, Jésus voit une grande foule et Marc dit « Il fut pris aux entrailles pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. » On voit que la nourriture qui sera donnée ensuite est aussi figure de cet enseignement et c'est bien la tâche que Jésus donne à Pierre. Nourrir le troupeau, c'est-à-dire enseigner de manière à proposer la bonne nouvelle aux gens et à nourrir l'intelligence de la foi. On pourrait même penser, dans le récit d'aujourd'hui, à l'aide que Jésus a donnée au groupe pour la pêche et considérer que ça fait aussi partie de la manière de prendre soin de ce groupe, d'aider les gens qui travaillent à cette mission d'Église qui est symbolisé par la pêche, de les aider dans ce travail, de leur donner du support. C'est un récit qui éclaire bien ce qu'on appelle traditionnellement la primauté de Pierre, et qui la confirme, bien sûr. Essentiellement, c'est la primauté d'une tâche, et une tâche vécue dans l'agapé, c'est-à-dire dans cette manière d'aimer Jésus de façon engagée. C'est bien le sens du « suis-moi » qui clôt le récit, c'est agir comme lui à sa manière. Alors, l'avenir de Pierre va être déterminé par cette mission. Pierre n'aura pas le contrôle sur sa vie. C'est un autre te mettra ta ceinture, te mènera où tu ne veux pas. Cette tâche, ce service de l'Église réclame de lui une certaine dépossession de lui-même. On dirait aujourd'hui une certaine démaîtrise, peut-être. Il reste que ce thème de la primauté de Pierre et de son successeur, qui est le pape, ça reste une source de tension dans les relations entre les églises chrétiennes, catholiques et protestantes. C'est aussi une source de tension et de beaucoup d'insatisfaction à l'intérieur même de l'Église catholique, là, on ne va pas se le cacher. Surtout dans la mesure où, où le successeur de Pierre est devenu une figure d'autorité centralisatrice, on pourrait dire, quasiment absolue, qui est bien sûr très influencée par la fonction royale dans l'histoire de l'Europe. Bon, à l'époque, c'était une sorte d'inculturation. Le style du pape François diffère un peu de ça, ça nous laisse espérer autre chose, bien qu'il soit lui-même lié à une tradition institutionnelle très forte, là, qui dépend pas de lui. Ce serait peut-être intéressant de revoir comment, au Concile Vatican II, le pape Jean XXIII et les évêques du temps ont repensé le rôle, la fonction du successeur de Pierre, plus dans les termes d'un leadership exercé en collégialité. Mais bon, c'est pas l'objet de notre émission. Alors, je m'arrête ici et je vous remercie, madame, monsieur, d'avoir été là. Merci aussi à Nathalie pour son soutien technique. Mon nom est Francine Robert. Je vous souhaite une bonne fin de semaine sur les ondes de Radio Ville-Marie et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure.